Bonsoir Charlotte Casiraghi.
Bonsoir.
Vous êtes avec nous pour évoquer La Fêlure, qui est sortie aux éditions Julliard. Selon vous, est-ce que vous pensez que vous aimez plutôt chercher à connaître ou à comprendre ?
Comprendre, je dirais, oui. Je crois que il y a cette grande passion de comprendre chez moi, de creuser. Parfois, je me dis que j'aurais pu être spéléologue, peut-être, dans cette idée d'aller dans les profondeurs. Et c'est vrai que La Fêlure est un lien avec cela, oui.
Anthropologue aussi, un peu, quand même. Parce qu'il y a un certain goût pour la vie. En général, dans ce livre, il y a plusieurs portraits qui sont à la fois complètement dissociés les uns des autres et en même temps très proches les uns des autres. Et en cela, je trouve que vous vous rapprochez beaucoup de Virginia Woolf et d'Une chambre à soi, entre autres, et de son envie d'observer dans la vie des autres. C'est quoi le point de départ de cette fêlure? C'est justement ça, l'observation des autres?
Oui, je crois qu'en partie, il y a ce désir de comprendre les autres, d'observer leurs gestes, leurs décalages, leurs dissonances, qui a toujours été un peu là chez moi, dans peut-être un désir, voilà, de comprendre les profondeurs aussi de la sensibilité humaine. Et donc, c'est vrai que je passe beaucoup de temps à observer, à analyser, à comprendre ce qui m'entoure ou ce que je rencontre, et que la littérature a été aussi un terrain d'exploration. Pour moi, c'est un peu comme une science approfondie du cœur humain, et qu'on peut, par la littérature en tout cas, éclairer des pans de la sensibilité qui sont pas toujours facilement accessibles. Et les écrivains nous offrent aussi la possibilité d'éclairer ces zones d'ombre.
En cela, vous pensez, votre livre, est-ce qu'on peut dire que c'est une éloge du sensible?
Oui, bien sûr, je crois. Enfin, j'espère, en tout cas. Mais oui, je crois que c'est peut-être pas un éloge, en tout cas, de la résilience, parce que cette notion-là, elle est questionnée dans le livre, mais peut-être plutôt de la sensibilité, au sens où c'est par la fêlure, en tout cas par ce qui tremble, par ce qui craque, que nous sommes plus sensibles. C'est dans ce décalage que nous éprouvons notre sensibilité et que nous pouvons justement rentrer aussi dans les textes littéraires. Et c'est pour ça que j'ai voulu, peut-être dans ce livre, que chez le lecteur, quelque chose tremble un peu dans sa sensibilité pour accrocher avec le texte.
Vous parlez de résilience, effectivement, dans le livre, entre autres, et vous êtes prudente avec finalement ce que nous sommes en train de faire de la résilience, comme si aujourd'hui on la trouvait presque nécessaire.
Alors, c'est pas le terme en lui-même résilience qui peut évidemment être juste et souhaitable. C'est l'usage qu'on en a fait, puisque la résilience, elle est quand même beaucoup utilisée un peu à toutes les sauces. C'est comme une forme d'injonction à surmonter son chagrin, à faire son deuil selon des étapes, avec des conseils pratiques. Voilà, alors que ça se passe pas toujours comme ça, et quelle place on accorde aussi à ce qui ne peut pas être réparé, ou à ceux qui continuent aussi de souffrir parfois d'événements très douloureux qui restent toujours là, et que voilà, je pense que c'est quelque chose, en tout cas, que je questionne dans le livre.
Je reviens à Virginia Woolf parce que vraiment, je trouve que votre livre, pour moi, a un écho très intéressant avec cette autrice. Est-ce que c'est un livre sur l'autorisation? Et justement, dans ce sens de ce que vous nous expliquez là, c'est-à-dire de pouvoir aussi apparaître vulnérable sans avoir à prouver sa capacité de résilience.
Oui, alors c'est vrai que cette acceptation de la fragilité, ou en tout cas de ne pas en faire quelque chose de honteux ou Et que cette autorisation, oui, à habiter sa fragilité, ça peut prendre du temps, ça peut prendre aussi même des années pour trouver la manière qui fait qu'on peut tenir et en même temps sans trop l'exposer, sans trop l'exhiber. Parce que c'est pas non plus ce que j'ai souhaité dans le livre, c'est-à-dire d'habiter sa fragilité, de pouvoir se montrer plus vulnérable, mais sans rentrer dans l'exhibition de ses blessures ou dans un récit trop cru de ce qui pourrait, en tout cas moi personnellement, me fragiliser. C'est des fragments et c'est cela que j'ai voulu en fait mettre dans le texte.
Comment ils se sont construits, ces personnages qui apparaissent dans ce récit qui fait un peu corps, comme un seul homme, et en même temps avec des femmes et des hommes vraiment liés aux mots, d'une façon très forte à chaque fois. Le Clésio a dit de ce livre que c'était un livre d'aventure, quand vous étiez à la Grande Librairie avec lui. C'est vrai que c'est un livre d'aventure, où on part à l'aventure de plusieurs rencontres. Comment il s'est construit? Quel lien vous avez avec ces personnages-là?
Alors, certains des auteurs dont j'ai choisi de parler dans le livre étaient des auteurs qui m'ont accompagné depuis longtemps, qui ont pu voilà, éclairer des choses importantes pour moi, donc avec qui j'avais une amitié de longue date, si on peut dire. Et puis d'autres sont venus en cours d'écriture ou m'ont été apportés aussi par des proches. Je pense notamment à Bernard Moitessier, qui est navigateur et qui est aussi écrivain, parce qu'il a accordé beaucoup d'importance aux gestes d'écriture. Et ça faisait pas partie des auteurs que je côtoyais, et ce monde, en tout cas de la navigation, m'était pas forcément familier. Et donc là, il y a eu voilà une ouverture dans le livre à quelque chose qui me ressemblait pas forcément au départ, mais j'avais cette curiosité et ce désir justement de comprendre peut-être quelque chose qui a animé d'autres personnes dans ma famille, dont mon frère aussi, et que il fallait pas simplement que je livre que ce qui m'est facile ou ce qui m'est familier aussi. Donc j'ai essayé voilà de tisser des ponts entre des auteurs aussi qui sont pas forcément les plus évidents au départ pour moi aussi, et c'était en résonance peut-être aussi avec l'envie de montrer plusieurs manières de faire avec ces fêlures dans des époques aussi un petit peu différentes, des contextes un petit peu différents, des univers un peu différents, pour montrer justement la singularité et la complexité de ces fêlures qui s'incarnent à chaque fois de manière très différente.
Dans ce livre, vous dites aussi que nous sommes des maisons hantées, notamment par les gens qu'on a aimés et qui ne sont plus là. Est-ce que vous diriez que d'une certaine façon, vous êtes aussi hantée par certains écrivains?
Oui, je crois que il y a une forme de hantise, c'est-à-dire que parfois certains écrivains ou certains textes qu'on a lus et relus se sont incorporés dans notre voix, sont venus la détraquer aussi, parfois l'habiter à notre insu et sans qu'on puisse toujours s'en rendre compte. Et c'est ce qui se passe aussi dans le deuil, c'est-à-dire que l'autre n'est plus là de manière visible, de manière physique, mais quelque chose de lui parle en nous. Et donc ce rapport à la voix, à cette matérialité et immatérialité de la voix, est quelque chose qu'on peut ressentir dans le rapport au texte et aux auteurs, parce que il y a quelque chose d'un peu fantomatique dans la présence de quelqu'un qu'on peut-être on n'a jamais rencontré, qu'on ne rencontrera jamais, qui est mort et qui pourtant nous parle et peut s'immiscer en nous. Donc moi j'ai ce rapport, Baudelaire par exemple, c'est un poète que j'ai lu assez jeune, et certains de ses poèmes m'ont marqué à des moments importants dans ma construction aussi, et donc je crois qu'il y a des choses qui ont infusé. J'avais l'impression voilà que c'était aussi un spectre quelque part dans mon imagination.
Pourquoi Fitzgerald a autant de place dans ce livre?
Alors Fitzgerald a beaucoup de place dans ce livre parce que la fêlure, The Crack Up, qui est un texte autobiographique de 1936, est un texte assez magistral sur l'effondrement, la dépression, la faillite d'une existence. Il le raconte de manière très clinique et en même temps avec quelque chose de très touchant. Et c'est en même temps un texte éminemment philosophique qui donne à penser sur qu'est-ce qui se passe quand une vie s'effondre. Et ça m'a permis, en tout cas moi, de vraiment choisir cette thématique de la fêlure plus spécifiquement et pas de la fragilité dans un sens peut-être plus large. Parce que dans ce texte, Fitzgerald raconte qu'il s'est effondré un jour, il a été plus capable d'écrire, qu'il avait sombré dans l'alcoolisme et qu'il était complètement ruiné, et que c'est pas venu à cause d'un événement violent d'un seul coup qui aurait précipité cette chute. C'était une usure progressive qu'il n'a pas su voir, et l'alcool jouait un peu comme quelque chose qui lui permettait de recouvrir cette fêlure et de continuer à séduire tout en se détruisant, et que tant qu'on peut continuer à fonctionner comme d'habitude, on n'est pas forcément sommé de regarder cette fêlure. Et c'est quand on est en mille morceaux que finalement la vérité surgit. Et pourquoi elle vient trop tard? Pourquoi, même vis-à-vis de nos proches, on n'est pas toujours en mesure de voir ce qui se casse de l'intérieur, ce qui n'est pas dû au décès d'un proche, à une maladie, un accident, la perte d'un travail. Tout ça, ce sont des grands événements visibles, mais il y a tellement de choses qui se passent en nous de manière imperceptible, et que Fitzgerald, pour cela, l'exprime très bien dans un texte court et percutant. Et voilà pourquoi j'ai choisi d'en parler. Et puis aussi parce que Fitzgerald a vécu dans un monde, dans la haute société, avait ce rêve de rentrer dans la haute société, d'être un écrivain flamboyant, mondain, d'aller dans les plus beaux hôtels, les plus belles fêtes, d'être entouré des plus belles femmes, des gens les plus brillants. Et ce succès, cette vie-là, n'a pas du tout empêché la cassure, n'a pas empêché qu'il gâche sa vie. Et que c'est aussi, je trouve intéressant, parce qu'on fantasme aussi beaucoup les existences de la sorte, comme Fitzgerald, de ce côté brillant et qui n'est pas forcément synonyme... c'est parfois des gens qui vont pas bien, et Fitzgerald le montre très très bien dans ses romans.
Oui, dans ce livre, vous dites que parfois le succès ou les réussites nous font perdre de vue l'existence. Mais vous, en tant qu'autrice, ce texte de Fitzgerald, quel écho il a eu particulièrement pour que cet auteur soit si présent dans votre livre?
L'écho, c'est vraiment le sentiment que ça nous parle. Enfin, moi, ça m'a parlé, même si j'ai pas fait un effondrement comme Fitzgerald. Mais c'est aussi parce que ce sont des choses, des questions qu'on se pose, je crois. Moi, en tout cas, cette question, je me la posais. Pourquoi tout à coup, quand quelqu'un s'effondre complètement, ou on entend parler d'une... d'un burn-out spectaculaire, et on se dit j'ai rien vu, on a tous rencontré des situations comme ça, de quelqu'un tout à coup qui chute et on n'a rien vu voir, on n'a rien su voir. Et ça m'a vraiment, c'est cette question qui a émergé à la lecture du texte. Et moi qui suis peut-être toujours dans l'envie de comprendre, de déceler les signes, d'être très vigilante vis-à-vis de la fragilité, c'est un sujet qui me questionne. J'ai vu aussi qu'on est tous parfois pas toujours lucides, en fait. Donc, j'ai pas d'autres explications. Puis après, voilà, c'est un écrivain que j'ai toujours aimé. Tendre et la nuit est un de mes romans préférés. Voilà, donc c'est aussi une complicité avec cet auteur. Et puis oui, après, il raconte aussi un univers que j'ai côtoyé aussi. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de passerelles.
Parce que la fêlure est une forme de prédisposition, ou en tout cas, on peut se poser la question. En tout cas, dans le livre, vous interrogez sur cette question de ce qu'il y a chez nous de prédisposition à chuter.
Oui, alors c'est... Et à la fois, en fait, il y a deux choses. C'est qu'il y a des prédispositions où, finalement, les événements qui vont nous arriver vont venir appuyer sur la fêlure. Par exemple, la rencontre amoureuse. Quand on rencontre quelqu'un, ça réveille les fragilités, ça réveille des angoisses, à la fois des moments merveilleux. La naissance d'un enfant, c'est la même chose, c'est un événement et qui va réveiller cette fêlure de manière plus ou moins forte. Donc il y a un terrain, il y a quelque chose qui précède, qui s'ancre en nous depuis notre naissance. Et je pense aussi qu'on peut parler d'hérédité de la fêlure, au sens où il y a quand même quelque chose qui se transmet aussi des fêlures de nos parents, de nos grands-parents, de choses qui circulent aussi dans une famille. Et puis, on peut aussi prendre la fêlure d'un point de vue... on peut la prendre de 1000 angles possibles, d'un point de vue biologique. Par exemple, on peut avoir une fragilité biologique qui va constituer quelque chose qui va créer une zone plus exposée, qui va nous exposer à des choses plus compliquées, et que c'est ce recoupement de 1000 facteurs, de 1000 choses qui nous constituent et qui est un assemblage fascinant, parce qu'on peut y faire intervenir toutes les sciences et tout le champ, en fait, de l'expérience. Et il y a aussi les circonstances politiques, historiques, économiques qui jouent dans tout cela. C'est pas que la psychologie de chacun d'entre nous. Ce sont énormément de lignes qui se croisent. Et cette fêlure, elle est toujours singulière, elle est propre à chacun, même s'il y a des choses dont on peut hériter, d'autres choses qui sont radicalement nouvelles, mais c'est cette combinaison toujours différente et unique.
Diriez-vous que c'est un espace poreux, cette fêlure, un espace entre la surface, la profondeur, qui fait que du coup, c'est un espace aussi peut-être difficile à définir?
Oui. Oui, c'est un espace assez poreux, parce que c'est mais il y a un rapport avec la surface quand même, parce que la fêlure, pour qu'on puisse l'appréhender, il faut que quelque chose émerge en surface, c'est-à-dire une trace très légère, une dissymétrie, quelque chose qui des profondeurs remonte vers la surface et qu'on peut entreapercevoir dans des moments où on peut sentir qu'on est plus sensible, moins on maîtrise de soi-même, et que c'est ce décalage, ce quelque chose qui s'est disjoint, mais qui est parfois extrêmement imperceptible et qu'on peut ne pas le sentir ou le saisir. Donc c'est sûr que c'est pas facile à attraper, et ça peut pas se résumer, on peut pas dire ma fêlure c'est ça, ma fêlure c'est tel événement, ma fêlure c'est non, ce sont des événements qui vont appuyer sur une sensibilité, une fragilité qui est peut-être plus de l'ordre de quelque chose d'atmosphérique. Je dirais, c'est l'atmosphère dans laquelle nous sommes, de sensibilité, et qui avance, selon des trajectoires qui sont toujours mouvantes et irrégulières. Voilà, c'est pas quelque chose qu'on peut définir facilement.
Dans le livre, vous écrivez que la verticalité des mots vous aide à ne pas chuter, vous. Et donc, cette fêlure, vous arrivez finalement à vivre avec, en ce qui vous concerne, grâce aux mots, grâce à la littérature, grâce à la réflexion littéraire.
Oui. Alors, je dis pas que c'est ce qui, c'est pas uniquement cela qui sauve, parce que dans le livre, il y a aussi un grand, une grande place à l'importance de l'amitié. Alors, c'est pas le sujet du livre, puisque le sujet c'est la fêlure, mais il y a plusieurs portraits et plusieurs moments du livre où le lien d'amitié est quand même ce qui permet de faire en sorte aussi que les mots tiennent. Donc j'en parle dans un chapitre sur une poétesse russe qui s'appelle Anna Akhmatova, mais je vais peut-être pas revenir sur tout ce chapitre. Mais oui, la littérature, ou en tout cas les mots, permettent de tenir, parce que ce... Voilà, j'essaye de définir la fêlure, c'est toujours difficile, mais cet endroit qui contient aussi du silence, du vide, des choses qu'on peut pas attraper, justement, parce que on sait pas très bien ce que c'est, on sait pas très bien ce qui fait qu'on perd parfois la maîtrise de soi-même, que quelque chose remonte en nous de très profond et on peut pas forcément l'identifier. Le langage, en tout cas littéraire ou poétique, est un langage fêlé, au sens où les mots que nous utilisons tous les jours dans le langage courant sont des mots plus ou moins lisses qui visent, voilà, à définir les choses de manière pragmatique, plus ou moins dans l'idée de généraliser les choses, parce qu'on n'a pas le temps, voilà, de rentrer dans peut-être un autre rapport aux mots. Dans une utilisation plus littéraire et poétique du langage, on fait trembler les mots, on associe des mots entre eux. Il y a voilà, une syntaxe, il y a tout un, voilà, il y a quelque chose qui vient trembler, transpirer et exprimer, je pense, quelque chose de la fêlure, en tout cas de cette fragilité qui est difficilement attrapable, mais qui, voilà, qui est quand même là et qui fait que c'est souvent ça qu'on aime chez un auteur. C'est dans le style d'une phrase, dans l'intensité qu'on va ressentir dans un texte, dans la voix, dans la petite musique qui se constitue dans un texte. C'est quelque chose qui est très difficile à décrire, mais c'est une certaine forme d'intensité qui nous parle et qui avec lequel on va rentrer en connexion. Et je pense que c'est à l'endroit d'une fêlure. En tout cas, c'est quelque chose qui ne peut pas, ce silence, on ne peut pas rester dans ce silence-là. À ces endroits brisés où il y a du silence, il faut constituer et tisser quelque chose avec les mots, mais qui ne peut pas être avec les mots de tous les jours. Il faut constituer une musique, quelque part.
Voilà. Mais vous parlez de ce chapitre sur l'amitié et de l'amitié en général, mais c'est bien plus que ça encore. Dans votre livre, ce que vous avancez, c'est le lien d'une façon presque générique que nous avons les uns aux autres, et pas seulement amicalement.
Oui, oui, oui. Oui. Non, il y a plus que ça, mais je pensais à cela aussi parce que pourquoi j'ai cité Anna Akhmatova, qui est une poétesse russe que j'aime énormément et à qui je consacre un chapitre au cœur du livre. Et en fait, voilà, dans ce chapitre-là, je mets en jeu aussi mon rapport à l'écriture, notamment dans l'enfance et dans les moments de mélancolie ou d'introspection où je me disais, je me raccroche à l'écriture comme quelque chose qui peut me sauver, qui peut me tenir. Et finalement, je réfléchis autour d'Akhmatova, qui est une poétesse qui a subi la censure, qui ne pouvait plus écrire librement, qui était enfermée dans un appartement gelé, qui attendait des nouvelles de son fils, qui était emprisonné à Leningrad, et la vie s'arrête. L'idée d'écrire est presque impossible pour elle, et c'est le lien avec une autre femme, Lydia Tchoukovskaya, qui va se constituer quotidiennement et où elle va apprendre par cœur ses poèmes. Et, et l'encourager, voilà, dans le fait de sauvegarder sa parole, et que du coup ce lien est extrêmement puissant et que c'est ça peut-être qui la sauve encore plus que simplement d'écrire des poèmes. Et je pense que ça, voilà, c'est quelque chose qui compte dans le livre aussi. Pas que, voilà, le rapport à la littérature ou aux mots, c'est aussi...
Oui, parce que cette histoire de poésie, elle est très présente dans votre écriture. La poésie semble vous accompagner, même quand on parle de philosophie ou de littérature. Vous écrivez des choses très jolies dessus, très intéressantes, très profondes, très... En tout cas, il y a beaucoup d'émotions pour vous autour de la poésie. Par exemple, cette phrase, vous dites que, je crois, la relation qu'il y a entre la poésie et le réel est une rupture.
Oui.
Donc, il y a, de votre part, beaucoup de réflexions autour de la poésie.
Oui.
Et si les mots vous aident à tenir debout, alors la poésie en premier, non?
Oui, et c'est en ce sens-là, alors peut-être c'est pas tout à fait clair de la manière dont je l'ai dit, mais dans la poésie, il y a cette idée de briser quand même quelque chose dans le langage courant, c'est-à-dire de pas utiliser les mots comme d'habitude, de sortir des règles habituelles, et qui fait que, voilà, il y a cette puissance aussi du langage qui fait qu'on quitte un tout petit peu le rapport habituel au réel, et qui permet, voilà, de ressentir des choses, enfin moi en tout cas personnellement, par rapport à la poésie, me font rentrer dans un rapport encore plus sensible et que j'ai, auquel j'ai été sensible très jeune, et qui, voilà, qui hante le livre aussi, et peut-être que, voilà, ce tremblement, il est en tout cas accessible par la poésie pour moi.
Oui, parce que quand on ferme votre livre, une fois qu'on l'a lu, on a l'impression que c'est un peu en dehors du réel qu'on trouve vraiment du réel. Alors, c'est singulier à expliquer, mais on a cette sensation. On a l'impression que vous faites une différence entre le vrai et le réel. Là, ça devient technique, mais quelle différence vous feriez là? Comment vous pourriez définir cet espace en dehors de ce que nous vivons tous les jours, qui est un espace de respiration pour vous et qui est celui des mots?
Alors, je prendrai l'exemple peut-être le plus concret, parce que sinon, ça risque de partir un peu trop. J'ai une tendance parfois à l'abstraction ou à me perdre dans le fil de mes pensées, parce que, voilà, j'arrive pas toujours à avoir des petites phrases toutes faites bien efficaces. Donc,
on a le temps.
Voilà, mais... Du coup, je vais prendre l'exemple peut-être du deuil, par exemple. Ça peut peut-être faire comprendre quelque chose dans ce qui peut être un autre rapport au réel et d'une perception infiniment plus vaste que celle qu'on peut peut-être vivre au quotidien. Et que c'est justement dans les moments de deuil ou de grand chagrin, d'amour ou de perte, qu'on va peut-être accéder momentanément, être plus sensible à la poésie, être plus ou cette brèche justement va être, on va être plus facilement à son contact et on va pouvoir rentrer dans ce langage plus fêlé et qui va nous sembler moins étrange. Et dans le deuil, en fait, ce qui se passe, c'est que le corps de l'autre disparaît. Cette dimension du visible, du préhensible n'est plus là. Et donc, on peut plus se satisfaire de la présence visible de l'autre, ni de son regard qui nous regarde, et que donc, le réel, au sens où on l'entend, bah, cette dimension-là, elle n'existe plus, et qu'on va devoir, ou en tout cas si à ce moment-là, du fait que le visible ne nous captive plus, on va être sensible à quelque chose d'autre qui va parler, on va écouter autrement, et que la présence des choses va venir sous la forme d'une hantise peut-être, ou par le langage, parce que ça va être la voix. Parfois on peut être impressionné comment la voix d'un disparu peut venir en nous à un moment où on l'attend pas, et que c'est quelque chose d'immatériel et en même temps d'extrêmement puissant. Et c'est cela quand on dit ça, quelque chose de plus réel que le réel, quelque chose qui ouvre une autre dimension de la perception, je crois.
Et quand vous expliquez ça, que vous reprenez dans votre livre, vraiment il s'agit de ça, je pense aussi à Cynthia Fleury et à son texte qui s'appelle La fin du courage, qui est cet écho comme ça d'abandon à un moment donné pour lâcher cette forme de résistance quotidienne, de brutalité aussi, pour tout d'un coup arriver justement à un endroit plus tranquille, mais aussi plus ouvert à une autre façon de correspondre déjà avec soi-même et avec les autres.
Oui, alors plus ouvert, plus tranquille, je sais pas, parce que moi je suis plutôt quelqu'un d'inquiet, donc c'est plutôt de l'inquiétude, mais en même temps c'est par l'inquiétude, je crois, qu'on apprend aussi à habiter l'incertitude du réel, et que je, enfin en tout cas moi ça me parle pas forcément d'imaginer un espace de quiétude où on pourrait se relâcher, mais en tout cas peut-être ce qui peut être un soulagement, c'est de ne pas se battre contre enfin, en tout cas, de pas s'enfermer dans cette illusion de la maîtrise et du contrôle et de ce verrouillage qui nous épuise aussi et qui finalement conduit à des choses plus, parfois plus destructrices que de justement traverser l'inquiétude. Sa fragilité qui peut conduire non pas forcément à un apaisement, hein, mais à quelque chose qui fait sortir peut-être de cette illusion de toute puissance et de contrôle et d'avoir la main mise sur ce qu'on peut renvoyer aux autres, sur ce qu'on, voilà, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas.
Oui, et puis vous parlez du gain, c'est intéressant, cette valeur de ce qu'on renvoie de la vitrine, parce que bien sûr vous êtes prudente avec la représentation, avec cette idée de l'image qui prend beaucoup de place, mais en même temps vous dites aussi que c'est un endroit qui nous rassure, qui rassure les autres. La vitrine, c'est rassurant, ça tient debout tout seul, c'est parfait. Et puis quelque part, ça nous rassure un petit peu aussi nous-mêmes sans forcément nous en rendre compte, de jouer le rôle de la vitrine.
Oui, alors c'est un pareil, on n'est pas obligé de dire c'est ça ou ça, vitrine, la vitrine qui veut dire quelque chose de fake, de faux, et puis un soi à l'intérieur qui serait plus vrai et plus sincère. Je crois que c'est pas aussi tranché que ça, c'est de pouvoir jouer sur cette ambivalence. On a aussi besoin d'un peu de vitrine, d'un peu de masque, d'un peu de protection en société. On peut pas débarquer et tout jeter sur la table et que c'est, voilà, c'est pas forcément possible, et que parfois se constituer pour certains un personnage, une identité, voilà, qui va être peut-être surtravaillée, est une façon aussi de tenir. Donc c'est pas un jugement contre ça, c'est qu'il faut pas être dupe en tout cas du fait que le contrôle de sa propre image, de sa vitrine, n'empêche pas la fêlure de progresser, que ça permet de parfois de soutenir les interactions en société, mais ensuite, voilà, ça fait qu'on se retrouve quand même avec tout ce qu'il y a en dessous, et que c'est pas forcément facile, voilà.
Donc c'est un livre sur l'équilibre, alors ?
Ouais, je crois, enfin, l'équilibre dans le déséquilibre, le fait de pouvoir tenir ensemble des idées contradictoires, surtout, parce que une des grandes, d'ailleurs Fitzgerald à la fin de son texte le dit, la maturité c'est peut-être de pouvoir faire tenir ensemble deux idées contradictoires, c'est-à-dire pouvoir avoir toutes les raisons de désespérer et en même temps espérer, c'est-à-dire pouvoir tenir ensemble cela. Et ce qui est problématique souvent dans nos fêlures ou dans des choses qui vont nous confronter, voilà, à des endroits comme ça qui sont qu'on n'arrive pas forcément à maîtriser, c'est qu'on peut pas tenir ces deux idées ensemble. C'est que pour protéger la zone fragile, on crée des cloisons, des clivages, on crée justement de la séparation pour pouvoir tenir à cet endroit-là. Et que je crois que dans l'ambivalence ou dans le fait de pouvoir avoir parfois des idées contradictoires et de quand même pouvoir les tenir ensemble, c'est une manière que je défends dans le livre et qui a une forme d'équilibre où il n'y a pas forcément à choisir ou à dire voilà, la sincérité ou le masque, la pudeur ou l'exhibition. C'est tout ça qui est mis en tension et un équilibre entre peut-être parvenir à laisser échapper une authenticité, une sincérité, de pas forcément chercher à tout maîtriser, tout en trouvant un voile de pudeur sur ces endroits fragiles pour justement ne pas non plus trop s'exposer. Donc, et c'est pour ça que j'ai voulu varier les registres et d'ailleurs ma distance avec le lecteur, d'être plus ou moins proche du lecteur à certains moments, et puis à d'autres moments d'être plus à distance, pour montrer qu'on joue avec cette distance tout le temps et que c'est le fait de pouvoir jouer qui nous protège aussi. Je repense aussi à une autre phrase de Gilles Deleuze, le philosophe, qui dit « Il faut danser avec sa fêlure sur une autre scène pour pas qu'elle nous engouffre dans les profondeurs. » C'est qu'il faut savoir danser avec elle, il faut savoir se déplacer, il faut savoir jouer, il faut... Et donc, il y a un peu de mise en scène, je crois. Enfin, en tout cas, dans le livre, il y avait une volonté de mise en scène aussi.
Oui, et puis, on pense à Descartes aussi, à cette idée de suspendre le jugement,
oui,
à commencer par soi-même. Mais alors, vous dites que vous êtes plutôt d'une nature très inquiète. Dans votre livre, vous avez l'air d'une telle tranquillité, d'une telle sérénité. Alors, l'écriture est-elle l'endroit où, justement, cette inquiétude trouve un moment de pause ?
Alors, non, pas forcément pendant l'écriture, mais pour moi, l'inquiétude n'a jamais été quelque chose de l'ordre d'un tremblement anxieux, d'être tout le temps sur le qui-vive. Je crois pas que c'est cela. L'inquiétude, pour moi, c'est vraiment un moteur. C'est ce qui nous force à penser. Si on n'est pas inquiet, si on est tout le temps ou tout cool, c'est être sensible à ce qui va pas de soi, à ce qui nous surprend, où on s'inquiète en se disant mais voilà, qu'est-ce qui se passe là-dessous, qu'est-ce qui pourrait se passer. Ça introduit une certaine vigilance qui n'est pas que malheureuse. Après, parfois, l'inquiétude peut déborder vers la panique, vers l'angoisse et dans des états qui sont plus douloureux et difficiles. L'écriture, je dois dire que c'est pas forcément un processus à certains moments qui est apaisant et reposant, au contraire. C'est parfois se faire violence, parfois aller chercher des choses qui sont très très loin et qui ne sont pas toujours accessibles comme ça et qui demandent de se heurter à des moments de d'incertitude totale, de trébucher sur une idée où ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas, et puis après ça se débloque et on sait pas comment, et donc c'est pas toujours très serein. Voilà.
Vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous prenez un peu à partie le lecteur avec vous, oui, dans cette aventure. Il y a des moments où vous utilisez le tutoiement.
Oui.
C'est des moments très intéressants. On ne sait pas très bien si vous vous parlez à vous-même, si vous nous parlez à nous, si c'est un peu les deux en même temps. Mais en tout cas, c'est des moments dans lesquels, entre autres, vous nous amenez à réfléchir aux gains concernant l'attachement qu'on peut avoir les uns pour les autres, sans forcément se connaître, puisque vous dites « tu cherches dans la biographie des gens, tu cherches dans l'enfance, le traumatisme, tu vas chercher, tu enquêtes,
oui,
finalement ». Quel est, selon vous, le gain à ne pas s'intéresser aux autres, puisqu'il est quand même question de ça dans l'époque que nous traversons aujourd'hui, à l'indifférence ?
Le gain, je pense que c'est principalement qu'on est dans... Bon, après, ça semble banal de le dire, mais une société de la performance qui fait qu'on doit performer tout le temps, et donc il y a l'idée, voilà, d'obtenir un résultat, d'avancer, de glisser, et que l'attention à l'autre, ou en tout cas être sensible à l'autre, ça ralentit considérablement dans cette course. Ça implique de se retourner sur ses pas, ça peut peut-être empêcher d'avancer aussi vite. Et je crois que ça, voilà, ça demande du temps. Écouter l'autre, ça demande du temps. C'est pas toujours parce que c'est très facile, hein, quand je prends à partie le lecteur, dire oui, tu cherches vite fait un trauma, tu fais 2-3 associations d'idées, mais c'est pas ça forcément. Comprendre l'autre, écouter l'autre, c'est pas plaquer des idées convenues ou le cartographier pour mieux le maîtriser aussi. Non, c'est beaucoup plus. Voilà, ça nécessite un certain espace et dont nous manquons tous. Donc je me mets dans le tu, je suis prise dedans avec le lecteur. C'est pas moi qui donne une leçon au lecteur ou moi uniquement qui me parle à moi-même. C'est quelque chose, je crois, qu'on est pris tous dans cette course permanente où on court après un truc et que si on va pas vite, bah, quelqu'un d'autre va prendre notre place ou on va perdre en désirabilité, à plein de niveaux, et donc on n'a pas trop le temps de se retourner sur son passage, et donc on manque un peu les autres, justement, c'est la fêlure, en tout cas, elle est pas forcément, on la ressent pas, quoi, chez les autres.
Donc, ce tu, il est saisissant.
Bah, je sais pas, il faut que les lecteurs me disent si ça.
Non, pour vous. Pour vous, le tu, c'est saisissant.
Bah, le tu, c'est assez facile. Enfin, je dis pas que c'est facile, hein, mais le tu, il y a quand même quelque chose qui prend à bras le corps. C'est une manière, une adresse qui est directe. Qui est frontal, et donc c'est un, en tout cas dans ce chapitre où il y a le tu, c'est une façon plus frontale de c'est une, enfin moi je l'ai ressenti comme ça, le tu, dans ce passage du livre.
Ça marche très bien comme ça, je suis d'accord. Quand vous écrivez, finalement, est-ce que au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, vous vous rendez compte que vous avez des peurs que vous n'aviez pas identifiées avant? Parce que on est en train un petit peu de parler de ça aussi, de ce que nous appréhendons dans la vie et qui fait qu'on court plus vite.
Donc si oui, des peurs dans le livre que j'avais pas forcément appréhendées, je sais pas trop. Ça reste assez mystérieux pour moi, ce temps de l'écriture où c'est une distorsion du temps. J'arrive plus très bien à me souvenir exactement l'état dans lequel j'étais, ou en tout cas comment. En fait, ce qui m'a plus impressionné dans ce processus, c'est à la fin, on voit comment des choses se sont liées entre elles et comment il y a des mises en rapport entre des auteurs, des sensations, des personnes, des choses qu'on n'avait pas forcément vues au départ, au début du livre. On ne sait pas où on va. Donc ça, j'ai ressenti ça, mais après,
par exemple,
j'ai pas d'exemple concret, je dirais que je savais pas qui allait être tous les auteurs du livre au départ. J'avais fait un choix, mais ça n'était pas arrêté, et puis ça s'est dessiné, il y a quelque chose qui s'est dessiné aussi malgré moi, et des liens que j'avais pas forcément fait, quoi.
Depuis tout à l'heure, et donc avec ce titre, avec ce livre, on parle de la fêlure, de cet endroit un peu mystérieux où on est affecté sans vraiment l'être. Mais au fond, on parle aussi beaucoup d'enfance. Vous parlez beaucoup d'enfance dans ce livre aussi, puisque, et on le voit bien, vous attirez notre attention sur le fait que l'enfance est un endroit, alors quoi, bien plus fragile encore qu'on ne le soupçonne.
Fort et fragile à la fois. Je crois que dans l'enfance, il y a quelque chose qui est à la fois une période de où la sensibilité, elle est beaucoup plus extatique, elle est beaucoup plus immédiate. On, Il suffit de se rappeler ce temps des premières fois où on court sur une plage l'été, où on va à une fête foraine, des choses qui peuvent nous arriver, des soirs d'été, voilà, des sensations où tout est très vaste et très puissant dans l'enfance. Donc il y a une sorte d'antidote sensoriel qui est beaucoup plus ancré dans cette période-là. Et un rapport magique aussi au réel, puisque ces sensations, voilà, sont débordantes, sont très puissantes, et donc il y a une certaine magie dans l'enfance. Mais il y a aussi la rencontre avec la déception, où l'enfant, l'adolescent est tout le temps déçu, fait l'expérience progressivement de ce qu'il avait idéalisé n'est pas tout à fait comme il l'avait imaginé, et que c'est peut-être ça aussi qui est présent dans pas mal de passages du livre, où je raconte aussi l'enfance de beaucoup d'écrivains et d'écrivaines qui sont dans ces portraits, et on voit comment il y a aussi l'expérience de la déception qui va pas être vécue par tous de la même manière. Et que dans ce qu'on va idéaliser de son enfance, ça va être un peu, voilà, ce bloc un peu compact, un peu lisse, où tout était parfait, tout était idyllique dans l'enfance, il n'y avait pas d'aspérité, c'était génial, nos parents nous protégeaient, on n'avait pas encore connu des choses aussi douloureuses. Et puis finalement, après, voilà, il y a des choses qui se fendillent, ce paradis enchanté finit par ne plus l'être. Mais l'erreur, c'est de penser que c'était cette contrée idéale, que finalement, il y a des choses qui étaient déjà craquelées du simple fait que nos propres parents l'étaient déjà, et que il y a tellement de choses qui passent dans l'enfance aussi, entre les parents, la famille, les enfants, l'environnement, en fait. Et que beaucoup d'auteurs, enfin en tout cas quelques-uns qui avaient un rapport très mélancolique à l'existence, je pense à Cesare Pavese, et qui s'est suicidé à la fin de sa vie, enfin il n'a pas vécu très longtemps, idéalisaient cette période de l'enfance comme un territoire sensible, absolument unique, et où tout était plus simple. Et en fait, il n'est jamais bien nulle part, parce qu'on ne retourne pas dans l'enfance. Il y a un moment où il faut habiter aussi l'âge adulte. Et du coup, ce qui boite ou ce qui tremble à l'âge adulte dans nos vies, il faut pas chercher à le redresser, ou en tout cas à vouloir s'appuyer sur l'enfance comme une béquille, comme ce territoire idéal qui nous permettrait finalement d'imaginer quelque chose de parfait, alors que finalement tout était déjà un peu dissymétrique, en fait.
Et on le voit bien à travers tous ces portraits. Alors, est-ce que, selon vous, il y a forcément une part de mélancolie quand on philosophe ?
Oui, je crois un peu quand même. Il y a une lucidité, mais après, la mélancolie, elle n'est pas nécessairement un état noir. Il ne faut pas qu'elle s'installe. Et par exemple, moi, je ne pourrais pas écrire un livre pendant 5 ans en étant enfermée à écrire toute la journée. Je deviendrais extrêmement mélancolique. Je pense que je ne pourrais pas. En tout cas, moi, ça me conviendrait pas. Mais je pense qu'il faut traverser des éclipses mélancoliques, des moments comme cela, parce que dans ces moments, on est quand même on est dans une certaine lucidité aussi sur des choses qui peuvent nous désoler, parce que je crois que voilà, il y a quand même ce scandale de la mort, du fait de mourir, de perdre ses proches, de perdre son enfance, de perdre une maison. Enfin, voilà, on est quand même dans un rapport permanent à la perte. Donc, c'est pas quelque chose qui peut toujours glisser sur nous dans la joie. Donc, y a des moments...
Le processus de démolition de Fitzgerald.
Voilà, et donc c'est vrai que la phrase de Fitzgerald, parce que il y a une phrase au début de la fêlure où il dit « Toute vie est bien entendu un processus de démolition ». Alors oui, c'est un peu extrême comme phrase, parce que on peut se dire qu'en vieillissant, on construit aussi des choses, qu'on est là, voilà, que c'est pas que une décrépitude. Mais si on le prend du point de vue biologique, notre corps se détériore progressivement. C'est pas une amélioration. Il y a quand même des possibilités aussi qui sont affaiblies. Et qu'on perd les gens qu'on aime au fur et à mesure, qu'il y a des choses qui seront quand même inévitables, et que ça veut pas dire que c'est démolition ne veut pas dire perte de vitalité, parce que dans ce qui peut nous détruire ou nous faire mal, on peut y puiser effectivement une création et on peut inventer autre chose, mais on peut pas nier, voilà, qu'il y a de la destruction et de la destructivité à l'œuvre dans nos vies.
Et ce sera ma dernière question, Charlotte Kadiraghi. Dans ce livre, vous écrivez aussi que enfant, vous aviez des certitudes. Est-ce que vous aviez celles que vous écririez?
Oui et non. Oui, je crois qu'il y avait des moments quand j'étais plus enfant, je me disais que j'aimerais écrire un jour. J'y pensais, et puis après, je crois que je me le suis pas autorisé pour plein de raisons. Je crois que le fait d'être quelqu'un faisant partie, voilà, d'une famille qui est extrêmement médiatisée, que ma vie était, voilà, exposée avant même que forcément je puisse la construire, et qu'il y avait ces projections. C'était un peu perturbant. Je crois que je me sentais pas totalement libre dans l'écriture, ou voilà, il y avait quelque chose qui était plus difficile dans cette liberté, ou dans le fait d'assumer le désir d'écrire.
On est très content que vous soyez autorisée. Merci beaucoup, Charlotte Kadiraghi.